Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Et on continue ce Positif Morning comme promis avec nos invités qui sont là. Bonjour Rachel Niogay. Alors vous avez travaillé pendant à peu près 10 ans dans la direction d'un établissement chrétien, hein, c'est ça. Et c'est Viviane Oberli qui est également avec nous, directrice adjointe d'une école chrétienne aussi. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Et Luc Bussière également est avec nous, c'est le président de l'AESPEF. Voilà, bien prononcer les lettres puis pas en oublier une. Et directeur aussi d'un établissement chrétien. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer d'abord par des réactions, Nathanaël.
Ah oui, oui, il y a Hélène qui dit « je trouve ça très bien ». Elle dit qu'à Mâcon, ses enfants ont pu profiter d'une école chrétienne. Voilà, on a pas mal de réactions, hein, des gens qui disent « nous devrions ouvrir plus d'écoles chrétiennes ». Voilà, c'est ça. Mais on va peut-être poser déjà la première question.
Ben oui, la première question est la suivante. Qu'est-ce qu'une école chrétienne, Rachel ?
Alors, une école chrétienne, c'est avant tout une école où on fait des mathématiques, du français, des sciences. On respecte le socle commun de connaissances, hein, donc... Les enfants peuvent à tout moment changer d'école. Ils ont un niveau académique comme toutes les écoles. Mais c'est vrai que c'est une école aussi où on réfléchit à comment est-ce qu'on transmet ses connaissances, ses compétences. Et c'est vrai que j'ai dit en tout temps, il y a des écoles chrétiennes qui ont existé. C'est peut-être pas vrai. Les écoles n'ont pas toujours existé telles qu'on les connaît aujourd'hui. Mais en tout cas,
depuis
il y a
longtemps,
toujours des chrétiens qui ont réfléchi justement. Bah, on sait que l'homme a besoin de il grandit pendant. Il lui faut 20 ans pour devenir un adulte. Hein, un animal, et en quelques heures, il sait déjà tout faire. Et donc, cette spécificité suppose justement une idée de transmission et de connaissances, de compétences. Et donc, on, dans les écoles chrétiennes, on réfléchit qu'est-ce qu'on transmet et comment on le transmet.
Donc ça, c'était important de dire, hein, ce socle commun. C'est-à-dire que, voilà, on va parler peut-être d'écoles différentes dans le sens où il y a les écoles publiques et les écoles privées. C'est ça la différence. Et ce socle commun, on va apprendre les mêmes mathématiques, le même français, même histoire.
Voilà, alors c'est le socle commun, ça correspond à ce que l'enfant doit savoir à 16 ans. Donc jusqu'à 16 ans, on a une liberté d'établir notre programme pour que à 16 ans, il ait tout ce qu'il lui faut au niveau compétences et connaissances académiques.
Donc quand on parle d'école chrétienne, ça commence à partir de quel âge, à partir de quel niveau ?
Alors de la maternelle jusqu'au bac. Hein.
Jusqu'au bac, d'accord.
Alors on a déjà commencé à aborder avec vous Rachel, qu'est-ce qu'une école chrétienne ? C'était le premier point absolument incontournable. Et Viviane, vous vouliez réagir suite à cette question.
J'aimerais aussi dire ce que n'est pas une école chrétienne. Ce n'est malheureusement pas une fabrique à petits chrétiens.
C'est-à-dire que n'importe qui, n'importe quelle famille, quel que soit son orientation spirituelle, on peut inscrire son enfant dans une école dite chrétienne.
Oui, bien entendu. Tout le monde est accepté et il faut qu'ils adhèrent au projet de l'école.
D'accord.
Plus 33 652 300 342, vous pouvez réagir à n'importe quel moment. Vous réagissez, il y a Raphaël qui a envoyé un message, un SMS, qui dit merci pour ces établissements chrétiens, pour ces écoles chrétiennes. Voilà, ce n'était pas une question, mais juste une affirmation,
merci.
Un merci qu'il voulait donner. Alors, on parle d'école chrétienne, mais la question que j'ai perdue juste en essayant de la retrouver, voilà, pour vous pensez que c'est vraiment un lieu de transmission, l'école chrétienne.
Oui, donc on est aujourd'hui dans une société en crise de transmission. On n'a jamais été aussi bon au niveau des moyens de transmission, au niveau technologique, etc., au niveau des savoirs, transmission des savoirs, formation des enseignants. On n'a jamais été aussi pauvre sur quoi transmettre. Et l'école chrétienne, elle transmet non seulement des savoirs et des connaissances, mais elle transmet tout un socle de valeurs, une identité, et ce que la Bible appelle une sagesse, qui est beaucoup plus qu'un savoir, mais qui est vraiment une façon de voir la vie, une façon de se comporter. Et il y a ce grand principe biblique qui dit que cette sagesse ne se transmet que par des sages. Et donc l'école chrétienne, c'est cet atout de transmettre plus qu'un savoir, plus que ce que les autres écoles font, mais transmettre vraiment une sagesse, une façon de voir le monde, une façon de se voir, une façon de se comporter, non pas par le pushing, la pression, mais par l'exemple et par la motivation.
Il y en a certains qui pourraient vous dire que transmettre des valeurs, c'est peut-être plus le rôle des parents, par exemple, même au niveau spirituel, que ce n'est pas à l'école de faire.
Alors, ça serait juste de dire ça si l'école était neutre. Or, il n'y a pas de neutralité, il n'y a aucun domaine qui soit neutre. Et donc, de toute façon, toute école transmet des valeurs. Et donc, nous vivons dans un monde où il y a un véritable conflit de valeurs. Et donc, en fait, pour assurer la demande des parents et répondre à la demande des parents d'une cohésion de valeurs, ces écoles sont nées. D'ailleurs, la plupart sont l'œuvre des parents.
Alors, une question qu'on pourrait se poser, ça veut dire qu'alors, si on est parent chrétien, il faut absolument mettre son enfant dans une école chrétienne. Ce serait une faute de ne pas les mettre dans une école chrétienne ?
Il n'y a pas de faute. Mais il faut savoir que ces écoles chrétiennes sont les parents eux-mêmes qui les ont montées. Mmh. Donc, en fait, elles sont une réponse à la demande même des parents. Bien évidemment que ce n'est pas la seule façon de faire. Il y a une grande liberté. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vit dans des pressions particulières et une pauvreté de la transmission. Et je pense qu'en tant que chrétien, il y a une richesse qu'on peut donner dans tous les domaines, dont le domaine de l'éducation.
Merci pour vos réactions qui sont nombreuses ce matin, Nathanaël.
Exactement, on a une réaction de... Alors, j'ai pas le message de cette personne-là, elle va peut-être se reconnaître et me donner son prénom, et qui dit « Moi, je ne suis pas pour les petites écoles privées, car de nos jours, la vie est très dure. Si j'inscris mes enfants dans une petite école où ils vont être couvés et surprotégés, ils ne pourront pas résister à la dureté et au choc de la vraie vie. » Donc, je vais rebondir rapidement aussi sur ce mot-là. Vraie vie, ça veut dire que finalement, une école chrétienne, on les prépare pas à la vraie vie. C'est ça, Luc ?
Oui, alors pour entendre ça, en tout cas, on est bien d'accord que la surprotection et le cocooning, ça ne prépare pas à la vie. Sauf qu'une école chrétienne, ce n'est pas ça. C'est un lieu de formation. Et dans un monde qui est difficile, c'est justement pour affronter ce monde qu'on a besoin d'un enracinement, d'une autre éducation, d'une autre atmosphère, d'une affection. Je crois qu'un enfant qui a vécu l'affection, la relation avec ses maîtres positivement, qui a été frotté à la réalité c'est quoi ? C'est ce qui est vrai. Mmh. C'est la réalité, on parle de Dieu, c'est la réalité aussi. Donc se frotter à la réalité, se frotter à la vérité, se frotter à la relation authentique avec un maître, ça prépare bien plus un enfant à affronter la vie. Et comme cette image d'une graine de fleur que vous lancez dans un champ, et la moine intempérie peut la briser, la détruire, vous la mettez sous serre, vous attendez que ce soit un plan bien fortifié, et ce plan-là sert bien plus apte qu'un autre à affronter les intempéries de la vie. Et je termine par l'histoire des écoles chrétiennes. En France, quand c'était une condamnation à mort que d'avoir la Bible au temps de Louis XIV, les évangélistes qui se sont levés, c'était des enfants sortis des écoles chrétiennes qui sont allés jusqu'à donner leur vie pour l'évangile. Donc ça montre bien l'histoire, les exemples bibliques et les exemples aujourd'hui que la formation, la préparation est absolument nécessaire pour justement mieux affronter les difficultés de la vie.
Viviane, vous voulez réagir par rapport à cette question ou en tout cas affirmation de cet auditeur, auditrice ?
Des exemples peut-être ?
Oui, pour être très concret, nos écoles ne sont pas des écoles où il n'y a que des enfants de famille chrétienne. Et il est clair que les enfants sont confrontés à des situations pénibles. Ils ne sont pas du tout protégés et ils doivent apprendre à réagir les uns avec les autres. C'est logique qu'on n'a pas des classes de 30 élèves à 40 élèves. Bien entendu, on les voit, ils ne se perdent pas dans la foule, mais c'est plutôt l'effet de serre qu'un effet de cocooning.
Oui, parce que souvent on se dit, mais les écoles, elles sont remplies, il y a plein d'élèves, on n'arrive pas à s'occuper de mon enfant. Là, c'est le contraire, et on a la possibilité de s'en occuper sans parler de cocooning. C'est la différence entre les deux, dans certaines écoles, il y a trop d'élèves, on ne peut pas s'occuper de mon enfant, alors que là, il y a plus de temps passé, mais ça ne veut pas dire cocooning.
Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
On a beaucoup de réactions par rapport au prix. Il y a Angie qui nous dit, sans aide financière, mettre 4 enfants dans une école chrétienne, ça n'est pas non plus possible. Sophie qui nous dit qu'elle a été aussi dans un collège chrétien, c'était une bonne expérience, mais dommage que ce soit aussi cher, car avec 3 enfants, 3 petits points, Nathanaël.
Oui, et puis encore une réaction, dire en plus c'est cher, donc c'est plus cher que l'école publique, et elle est gratuite l'école publique. Pourquoi les écoles chrétiennes ne sont pas gratuites ? Question pour vous, Luc.
Alors, ces écoles ont un statut hors contrat avec l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention, c'est le prix d'une liberté pédagogique et d'une liberté de fonctionnement. Donc à partir de là, eh bien, tous les frais sont assumés par les associations qui gèrent. Donc c'est à la fois des donateurs, à la fois des parents, à la fois des enseignants qui se donnent bénévolement, et malgré tout ça, il y a un coût pour les parents. Il faut savoir que ce coût pour les parents, il est parfois diminué selon la situation familiale. Il y a des parents, par exemple, je prends des exemples de parents qui ont été au chômage, ils ne payent plus rien. Il y a une suspension de scolarité. Il y a des parrainages qui existent. Il y a des donateurs qui disent, moi j'aimerais soutenir une famille qui a du mal à payer. On trouve des solutions généralement, mais c'est vrai qu'il y aura toujours un coût. Et en fait, ce coût est proportionnel à la valeur qu'on accorde à nos enfants. Jusqu'où on est prêt à faire des sacrifices pour eux. Et donc, c'est vrai qu'il y a un sacrifice de la part des enseignants, mais aussi de la part des parents. Mais je peux vous dire que j'ai toujours vu depuis 30 ans des solutions par rapport aux parents qui ont vraiment la conviction de mettre leurs enfants.
Viviane, vous voulez apporter un élément aussi supplémentaire par rapport à cette question du coût ?
Je pense que c'est très important que les parents aient conscience qu'il y a un pas de foi, un degré de foi quand on met l'enfant dans l'école chrétienne, ses enfants dans l'école chrétienne, que Dieu pourra aussi pourvoir. Et je le vois avec mes propres enfants. J'ai 3 enfants à l'école chrétienne. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Mais j'ai vu la fidélité de Dieu. Et c'est une manière aussi pour nous parents de grandir dans la foi de cette manière.
Finalement, c'est peut-être en effet comme un premier acte de foi, même pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, de se dire, bon, ok, j'y crois et je pense que je vais avoir les moyens nécessaires pour finalement mener cela au bout, quoi. On prend bien sûr toutes vos questions et on a eu une très belle réaction, Nathanaël.
Oui, une belle réaction de Christine qui est du côté de la région parisienne et nous dit qu'elle donc elle fait partie de l'équipe encadrante d'une école et elle dit qu'hier, elle a encore pris une maman dans ses bras qui venait d'apprendre par une personne qu'elle venait de perdre son bébé de 4 mois dans son ventre, une petite fille. Elle a beaucoup pleuré dans mes bras et m'a dit qu'elle était très touchée, que je la serre dans mes bras. Pour moi, c'était très important, la compassion, l'amour du prochain et l'écoute. Cette relation avec les parents est très importante.
Oui, alors moi j'ai un exemple aussi. Donc en région parisienne, on a accueilli un enfant qui était d'une famille anglophone. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup souffert dans l'école. Ils n'étaient pas acceptés. Il était un gabarit assez grand. Et du coup, il a commencé à se bagarrer. Il avait l'image d'un bagarreur. Et c'est vrai qu'au début, quand on l'a accueilli à l'école, il fallait être un peu à côté de lui en cours de récréation. Et puis ses résultats n'étaient pas très bons, mais on a vu derrière cette façade et cette violence, on a vu vraiment un cœur tellement doux, tellement d'amour à donner. Et la première fois qu'on a rencontré sa maman pour lui donner le bulletin, qui n'était pas une très bonne nouvelle parce que le bulletin n'était pas très bon, mais c'est vrai qu'on lui a dit ce qu'on avait vu au-delà de cet aspect bagarreur. Et la maman a pleuré, elle nous a dit que c'est la première fois qu'elle entend quelque chose de positif sur son enfant. Et parce qu'on avait tissé cette relation avec cet enfant au-delà de son apparence.
L'école chrétienne, Viviane, je vous invite à réagir. Merci Rachel. L'école chrétienne, elle apporte quelque chose en plus au niveau de la relation, que ce soit au niveau des parents, des enfants?
Oui, je connais beaucoup d'anciens élèves. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les écoles chrétiennes et je connais plusieurs élèves qui retiennent le temps de leur scolarité dans une école chrétienne. On se pose la question, mais c'est quelque chose qui est resté ancré. Et je peux donner un témoignage particulier, c'est celui de mon mari Eric, qui était dans les premières années de l'établissement Daniel. Et il a côtoyé Jean-Luc. Alors Eric était d'une famille chrétienne, mais Jean-Luc pas du tout, pas chrétienne engagée. Et tous deux sont sortis de cette école. Et plus tard, quand Jean-Luc a eu 18 ans, il a appelé Eric en lui disant « Je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. » Et Eric, qui venait d'une famille chrétienne, s'est dit « Mais moi, ça fait 18 ans que j'entends parler de ce Jésus et j'ai jamais pensé faire le pas. » Et c'est comme ça qu'il a fait le choix de s'engager, qu'il s'est fait baptiser et qu'il a vraiment pris cette marche avec Jésus. Et Jean-Luc a eu entre-temps beaucoup de cheminements difficiles. Il a fréquenté quelqu'un, il a rejeté Dieu pendant un moment et petit à petit il a retrouvé la foi. Il s'est marié, il a une petite fille et quand on l'a revu plus tard et qu'on lui a demandé son témoignage, il a dit il ne se passait pas un seul jour où je ne pensais pas à Dieu pendant cette période.
Et quand vous dites que, enfin, c'est ce qu'on disait justement au niveau de la relation, qu'est-ce qu'ils retiennent les enfants? Ils retiennent un temps particulier avec les professeurs? Ils retiennent cette notion de Dieu? Qu'est-ce qui les marque le plus?
Ils ont conscience que les professeurs les voyaient comme très précieux et ils ont la possibilité de construire des relations proches les uns avec les autres du fait qu'ils ne sont pas perdus dans la masse de leur classe.
On a la question d'une jeune adolescente, Nathanaël,
oui,
ce matin.
Keren Elia qui dit « J'ai 12 ans, j'ai pas envie de devenir pasteur, je rêve juste d'être sportive professionnelle à un haut niveau et ensuite créer une marque dans la mode et de la beauté. À quoi ça me servirait de venir dans une école chrétienne ?»
Une première réaction à chaud, Luc.
J'ai envie de dire que t'as un super rêve, on est à fond avec toi.
Rachel, vous avez envie de compléter là-dessus?
Voilà, l'idée c'est que bien sûr, on n'est pas là pour casser les rêves, mais au contraire pour les encourager. Et on sait que chacun a une destinée, chacun a des choses qu'il a en lui, qu'il veut faire. Et l'école chrétienne, elle est là pour donner des valeurs. Et en tant que sportif de haut niveau, combien on a besoin d'être solide, d'avoir des valeurs qui soient fortes pour tenir. Parce que et la mode, pareil, c'est vraiment des milieux difficiles. Et on peut faire la différence. Et nous, on croit que les chrétiens ont leur place, que ce soit sportivement, que ce soit dans la mode, que ce soit dans la culture, dans les médias. On a besoin de chrétiens, mais qui savent qui ils sont et qui aient des fondations solides.
Rachel, il y a quelque chose sur lequel vous vouliez insister par rapport à la liberté pédagogique.
Oui, c'est-à-dire que étant une école des écoles hors contrat, on a cette liberté de pouvoir explorer de différentes pédagogies, de pouvoir s'adapter au rythme de l'enfant, aux besoins de l'enfant, et de pouvoir leur apprendre dans la liberté. Voilà.
Ça, c'est vraiment important. Et il y a une précision aussi, c'est que toutes ces écoles chrétiennes ne se ressemblent pas forcément toutes. Elles ont une couleur, Viviane.
Tout à fait. Certaines peuvent être des écoles bilingues, d'autres peuvent mettre l'accent sur Montessori. Il peut y avoir certaines écoles qui travaillent sur des enfants en difficulté. On travaille au rythme de l'enfant. On essaye aussi de pouvoir accueillir des enfants différents, des enfants handicapés. On essaye de mettre tout un programme autour. Ça peut permettre aussi ça, d'être une école indépendante.
Et juste dans les établissements dans lesquels vous travaillez ou avez travaillé, il y avait combien d'enfants par classe environ ?
Dans mon établissement, environ une dizaine d'élèves par classe.
C'est d'accord. Ça, c'est à peu près, Luc, la moyenne des écoles, dans les classes. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, ça peut être un avantage, c'est que les classes ne sont pas... Il n'y a pas une explosion du nombre d'élèves, et ça permet d'être plus proche des élèves. C'est à peu près cela ?
Oui, tout à fait. On trouve ça dans toutes les écoles. 10 à 20 élèves par salle de classe, c'est à peu près la moyenne, oui.
Question entre autres d'Aurélie qui demande: qu'avez-vous fait concrètement pour créer une école chrétienne ? Diplôme, papier administratif, etc. Question très pointue. Luc ?
Alors sachez que je vous envoie au site créersonécole.com et au site de l'ACSI qui a un très bon ouvrage sur comment créer une école chrétienne. Sachez que la législation permet une grande liberté et ce n'est pas des montagnes que de vouloir créer une école. Il y a de grandes facilités et pas de grandes conditions.
Alors, ce que vous recherchez beaucoup aussi, donc on parle d'écoles, il y a des écoles qui se créent, il y en a des écoles un peu partout, mais généralement vous avez aussi besoin de personnel enseignant, encadrant, et puis pour faire tourner ces structures-là. Comment on fait pour se renseigner exactement, pour pouvoir vous aider ?
Alors on vous invite à aller sur le site de l'AESPEF.org, Association des établissements scolaires protestants évangéliques en francophonie, et puis le site de l'ACSI aussi, une organisation internationale. Et c'est vrai que c'est les enseignants qui font la différence dans une école. Et par rapport à ça, on vous invite à peut-être songer à la formation, et cette formation qu'offre l'Institut supérieur protestant Mathurin Cordier sur Guebwiller en Alsace, et qui offre aux parents, mais aussi aux enseignants du public ou du privé, des compléments de formation pour vraiment transmettre la spécificité de qu'est-ce qu'une école protestante, qu'est-ce qui est différent dans l'approche, dans la pédagogie, dans la relation, dans la vision des programmes, etc.
Alors si on a des enfants, on veut peut-être se dire, ce matin ça m'a ouvert les yeux, j'ai envie peut-être d'aller plus loin. Comment les gens qui nous écoutent un peu partout, en France, en Belgique et en Suisse, peuvent se renseigner en disant, est-ce que j'ai un établissement chrétien autour de chez moi ?
Eh bien justement, ils vont sur un de ces sites, aespef.org ou acsi.org, et ils auront les renseignements, les cartes, etc.
D'accord.
Effectivement, on travaille avec la Suisse, la Belgique et la France en particulier.
Eh bien voilà, vous pourrez donc vous renseigner, on mettra toutes ces coordonnées sur le site internet de Phare FM.
Tout à fait, il nous reste à vous remercier chaleureusement Rachel Niaugay, Viviane Oberli et Luc Bussière pour votre présence ce matin, pour vos réponses, une très belle continuation aussi à chacun. Merci à vous pour vos questions ce matin, nous avoir écoutés et puis d'avoir pour tous vos commentaires aussi. Nathanaël, il lève le doigt, il veut parler.
Je lève le doigt, oui maîtresse s'il vous plaît, est-ce que je peux parler ?
Oui, Nathanaël,
je peux rajouter quelque chose, voilà. Donc Luc Bussière aussi, cofondateur d'établissement Daniel, ça se passe du côté de l'Alsace, Viviane Oberli, l'école Emmanuel, et puis aussi le projet d'école de Rachel Niaugay qui donc démarre à partir de septembre, qui s'appelle donc l'école Oberlin. Voilà, c'est du côté de Mulhouse, Guebwiller et Saint-Louis. C'est localisé du côté de l'Alsace, mais vous avez des écoles autour de chez vous, que vous soyez en Suisse, en France ou en Belgique. Ce rendez-vous sera disponible en replay pour le partager autour de vous.
Exactement. Merci à tous pour votre écoute et à demain 6h pour un prochain Positive Morning. Bye bye.